Accès libre.
Octobre, c'est le mois du nanisme et on fait encore dans la réalité aujourd'hui, une réalité qu'on a trop souvent, disons, laissée de côté. Et Karine Villeneuve est là.
Bonjour.
Pour nous aider à s'en souvenir. Karine, j'ai regardé dans chacun des endroits où je suis allé cette semaine. J'ai vraiment pensé à vous et à la discussion qu'on a eue avec Kathleen la semaine dernière. J'ai vu aucun lavabo avec des champlures sur le côté. Aucun. Ni dans... Puis pourtant, j'ai vu plusieurs salles de bain accessibles.
Oui.
Mais on se rend pas jusque-là dans l'accessibilité.
Ben c'est sûr que nous, on est un peu les oubliés.
Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est quoi? Vous faites pas assez de bruit? Vous... Non, mais sérieux, comment... Ça me dérange. Mais en même temps, ce qui me dérange, c'est que je n'y ai pas pensé avant l'an passé, avant de vous rencontrer l'an passé. Fait que je peux pas blâmer personne. C'est juste qu'il faut le dire, là.
Oui, c'est sûr. Mais pour beaucoup de gens, encore, le nanisme, c'est pas encore clair que c'est un handicap. Et même au sein de la communauté de limitation fonctionnelle, pour bien des gens, ils nous conseillent, ils ne voient pas que c'est des limitations fonctionnelles.
Ouais.
Parce qu'on marche.
Ah oui, mais... OK. Ben, on va les aider à comprendre. Hein, c'est ça qu'on va faire. Bonjour, Nathalie Labelle.
Bonjour.
Vous travaillez avec Karine.
Oui.
Entre autres. Mais vous me disiez que, bon, à part le fait qu'elle vous a donné une job parce que vous étiez amis, vous étiez justement, vous vous connaissez de longue date, là.
Oui, effectivement.
OK. Vous êtes là parce que vous êtes conseillère en inclusion sociale responsable du service avec les membres dans le volet de sensibilisation scolaire. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, puisque, bon, on parlait du mois du nanisme et... les deux, vous travaillez pour l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bon, Karine me disait, puis ça se peut là, qu'il y a des tu, puis des vous, puis peut-être même que vous allez l'appeler chose ou hey la belle.
Non, c'est pas à comme... ce point-là.
Ça fait longtemps que le service existe, Karine et Nathalie?
Ben, je pense que Nathalie, vous êtes plus en mesure de répondre.
Bien, ça a pas mal toujours existé depuis que l'association a une permanence. Nous, lorsqu'il y a un enfant de petite taille qui intègre l'école, que ce soit à l'école primaire ou que ce soit à l'école secondaire, on trouve important d'aller à l'école sensibiliser toute l'école, tous les jeunes à la situation du nanisme. Expliquer c'est quoi le nanisme, expliquer c'est quoi que l'enfant qui est leur ami, leur collègue peut vivre, comment se comporter, comment... Donc, on démystifie là, toutes les questions parce que ça peut être tellement vaste les questions que les enfants ont. Si on prend au primaire, donc les jeunes en première, deuxième, troisième année, ils vont beaucoup se demander comment tu fais pour telle chose, comment tu fais pour telle autre chose. Tandis que
les adultes aussi, Nathalie.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on arrive plus en quatrième, cinquième, sixième année, et après ça, plus tard au secondaire, c'est plutôt comment tu te sens quand telle situation arrive ou comme qu'est-ce que ça te fait quand telle situation arrive. Donc, mais c'est pour ça que nous, ben, on explique tout. T'sais, comme on parlait un peu tantôt, le nanisme, il y a trois aspects importants au nanisme. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect architectural. Tantôt, vous parliez des adaptations, donc tout ce qui est environnemental. Mmh. Et il y a l'aspect du social, les préjugés, discrimination. Nous, c'est un peu ça aussi qu'on parle aux enfants. Parce que ce soit l'aspect préjugé, l'aspect discrimination ou l'aspect... on entend beaucoup là, parler...
de lutte contre
l'intimidation, c'est ça. Donc, nous, on parle des différences en général. Parce que les jeunes, ils ont à l'école toutes sortes de différences. Ouais. C'est pas juste les personnes qui ont le nanisme. Donc, puis il y a une grosse... entre le avant et le après notre intervention.
Ah oui!
L'impact est énorme. Les jeunes, je suis justement mardi dernier, là, je suis allée dans une école primaire pour une membre qui est en deuxième année. Puis quand on arrivait, j'étais allée avec une amie, une collègue, puis quand on arrivait...
Coudonc, tout le monde engage ses amis dans cette
non,
place-là?
Non, ben, c'est une personne de du CA, du conseil d'administration, qui a beaucoup fait d'animation, donc elle est plus à l'aise mm-hmm. devant, veut pas, un public. Là. Donc, quand on arrive à l'école... là, c'est les regards, c'est « Ah, regarde ouais. la petite madame, puis tout le kit, puis là... » Puis quand on sort plus tard dans la journée, entre les périodes ou à la fin des classes, hein, « Ah, là, ils nous entourent. Mm-hmm. » On avait l'air d'une rockstar là, qui sortait, là, parce qu'on avait là, tous les jeunes qui voulaient être notre ami, puis qui voulaient nous parler, puis qui nous voulaient voir ma voiture avec mes adaptations, puis qu'il y avait plein... Puis le regard change.
Et vous avez un prénom.
Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est ouais. Nathalie, c'est effectivement. Ouais. Puis, non, le regard change. Puis, la jeune qu'on est allée à son école était tellement fière qu'on aille à son école. Elle avait tellement hâte. Puis, son professeur était... C'est ça, c'est tout le monde est ouvert. Les professeurs assistent aussi. Puis, comme on dit toujours, pour souvent les enfants de petite taille, vu qu'on est beaucoup plus petit que la moyenne, que les autres enfants... Bien, il y a de la surprotection, il y a du... Donc là, on leur explique que c'est pas une poupée, c'est pas un bébé, tu fais pas les choses mm-hmm. à sa place. Si elle a besoin d'aide, elle va te le demander. Ou si tu trouves qu'elle a besoin d'aide, tu peux lui demander comme tu le demanderais à un autre ami.
Avez-vous des demandes également au niveau secondaire?
Oui, je suis allée aussi...
Parce que l'intimidation doit se faire davantage là, il me semble.
Il y en a, mais...
En fait,
je
sixième,
pas...
puis premier, deuxième niveau là, ouais. du secondaire.
Mais je suis allée en septembre dernier rencontrer tous les élèves de secondaire 1 dans une nouvelle... où il y avait un nouvel élève de petite taille. Et là encore, là, entre les périodes, les élèves étaient... Ils se dérangeaient, ils étaient dissipés. Puis la minute que je me suis mis à parler, que je me suis mis à expliquer les choses... L'écoute qu'ils avaient, là, c'était phénoménal, c'était beau à voir. Ils sont à l'écoute, ils veulent apprendre, mm-hmm. ils veulent connaître les choses. Il faut pas leur cacher les choses.
Mais ils sont très curieux aussi.
Exactement.
Puis je pense qu'au niveau secondaire, les questions même sont plus poussées, sont plus intimes, sont plus même intéressantes. Les gens, habituellement, ont un très grand respect, là.
Oui, ils nous demandent au niveau de la vie amoureuse, ils nous demandent les regards, les préjugés, parce qu'ils s'en rendent compte qu'on peut se faire rire de nous, il y a des commentaires désobligeants. Mmh. Donc, ils nous posent des questions, ils nous demandent, c'est très vaste et c'est très bien.
Est-ce que vous avez l'occasion de faire ça à l'année ou les écoles vous veulent surtout en début d'année, puis après ça...
Non, ça peut être à l'année, effectivement. C'est sûr que en début d'année, c'est préférable parce que...
Oui, mais on peut pas toutes les faire en même temps.
Exactement.
C'est ça, la
difficulté. Mais nous, on va beaucoup à la demande. Aussi, quand on a nos nouvelles familles, nos parents à l'association, on leur dit toujours, quand ils préparent la rentrée scolaire, que ce soit au primaire ou au secondaire, n'oubliez pas, vous pouvez demander à l'école, l'école peut nous demander d'aller faire une sensibilisation et on leur parle de c'est quoi la sensibilisation. Puis, en général, les écoles sont très ouvertes. Et on fait même des écoles qui n'ont aucun enfant de petite taille. Donc, à tous les ans, à la fin novembre, je ne sais pas si je peux le nommer, mais le collège d'Anjou, ils nous demandent. Ils ont une semaine thématique ou une journée thématique sur les différences. Et à tous les ans, on va passer la journée pour rencontrer tous les élèves du secondaire 1 pour leur parler du nanisme. Mais il y a plein d'autres organismes pendant cette journée-là qui vont parler des autres différences, que ce soit l'homosexualité ou que ce soit d'autres limitations.
Oui, il y a quelques écoles qui font ça. Oui. Bon, il y a la semaine d'ailleurs à l'UQAM, cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas c'est dans les jours, dans les présents jours, mais c'est vrai que ce n'est pas malheureusement, disons, chose obligatoire ou...
Non, c'est ça.
Disons...
Antérieurement, il y a beaucoup, plusieurs années, là, je me rappelle
pas. Oui, mais les projets PDE,
Il y avait les projets PDE. On avait fait une tournée dans les écoles. Donc, pendant 6 mois, il y avait 3 personnes qui étaient engagées pour faire une tournée de sensibilisation. Et là, ils parcouraient la province. C'était les écoles à travers la province.
Ouais, j'avais fait ça à Laval, moi.
OK.
Oui, ouais. On l'a défait. Bien, dans un monde idéal, nous, à l'association, on rêverait de pouvoir développer ce service-là à l'année.
Oui.
Parce qu'on croit beaucoup en la sensibilisation. On rêverait de faire toutes les écoles au Québec.
Ben oui, je comprends.
Parce que
pas seulement
faut aller à la base. C'est à la base, c'est travailler à la base. Les jeunes, on voit une différence. Puis des fois, les enfants retournent à la maison, ils en parlent à leurs parents. Tu sais, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait.
J'ai un exemple, justement, bon, pour complètement dans un autre contexte. Je faisais, j'avais une réunion, puis il y avait une femme qui était là d'un autre organisme de personnes handicapées et son enfant l'accompagnait. Puis à un moment donné, il lui dit « Maman, elle est venue à mon école, elle a parlé, puis là, la mère... » Non, c'est elle qui est venue à mon école. Puis la mère est venue me voir, puis elle m'a dit... Quand cette journée-là, quand il est revenu... Puis lui, il n'est pas du tout de petite taille. Mm-hmm. Donc, cette journée-là, quand il est revenu à la maison pour compléter l'exemple que Karine a dit, il en a beaucoup parlé. Il était super intéressé. Il avait appris plein de choses. Donc...
C'est fabuleux. Ça coûte combien pour une école si vous avez, un programme organisé, des activités? Ou est-ce que vous allez aussi loin que ça? S'il y a une demande?
Nous, pour sensibiliser pendant une journée complète, toute l'école, donc en général, c'est 5 périodes, à 2 animatrices, c'est 300 $. Donc, en général, les écoles, c'est dans leur budget de fonctionnement là, et tout ça. Donc, c'est pas cher.
Et en organisez-vous des activités ou est-ce qu'il y a un documentaire après pour que les gens... est-ce qu'il y a des aides pédagogiques, disons, dans votre présentation?
Non, c'est une présentation orale.
Témoignage, question-réponse.
Exactement.
Mm-hmm. Parce que je pense que c'est... je pense qu'au fil des années, on s'est rendu compte que cette formule-là était gagnante.
Oui.
Dans le sens que c'est vraiment les questions... Nous, on parle un peu de théorie, on donne des exemples, mais c'est vraiment les questions des enfants qui priment.
Bien, on a un petit peu de visuel dans le sens que les enfants, je l'ai fait à un moment donné, on a deux chaises à l'avant. Moi, je suis debout à côté d'un professeur qui est debout, donc il voit la grosse différence de grandeur.
Oui.
Parce que la maladie osseuse que j'ai, la chondroplasie, notre corps est relativement de grandeur régulière. Et là, je m'assois à côté du professeur qui s'assoit, et là, il voit qu'on est de la même grandeur. Mm-hmm. Donc, on a un peu de visuel
oui,
comme ça.
Ça fait toujours un effet impressionnant.
Oui, là, ils disent, oh, là, elle est pareille. Donc, c'est là. Puis le visuel, comme on dit, ils nous regardent, ils nous voient fonctionner, ils nous voient... Ils apprennent beaucoup juste comme ça.
Ouais.
Antérieurement, on a déjà apporté des photos d'adaptation, tout ça, mais ils veulent du vécu, témoignages.
Est-ce que, je présume, on appelle au bureau, puis on prend rendez-vous selon les agendas
c'est
de chacun?
Ça. Exactement. Okay. On envoie par courriel nos documents explicatifs du détail de
c'est
la formation.
C'est vous qui courtisez ou c'est eux qui vous appellent en général?
On fait les deux.
OK.
On fait les deux. Des fois, ça peut être suite aux informations qu'un parent peut m'avoir données de l'école.
Ouais.
C'est moi qui contacte l'école. D'autres fois, c'est l'école qui nous contacte directement. Les deux possibilités sont là.
Okay.
On fait aussi, des fois, du corporatif ou pour les organismes aussi à la demande.
Oui, j'imagine s'il y a un employé
oui, exactement.
Un nouveau collègue.
On peut extensionner ou étendre.
Nathalie, je vais vous inviter à rester avec nous parce qu'on va parler d'accessibilité et d'adaptation de domicile privé. Là, la semaine dernière, on a parlé plutôt d'édifices publics et de l'extérieur. Là, cette semaine, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement dans la discussion avec Kathleen la semaine dernière qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir, donc on a segmenté ça. Et comme vous aussi, je présume que vous avez eu à adapter certaines choses, peut-être que votre point de vue sera utile à la discussion. Parlant de... ça a été très, très, très... bon, on a mentionné le mot « amour ». Karine, j'ai ouï dire que vous étiez à télé la semaine dernière. C'était la semaine dernière, hein?
À la télé? Non.
C'était où?
Vous parlez de...
Il y avait un documentaire.
Vous parlez le projet des marginaux.
J'ai aucune idée, mais je me demandais, ça peut servir? Est-ce que les auditeurs peuvent voir ça?
Malheureusement, c'est un projet... c'est un projet étudiant, de 4 étudiants en communication télé de l'UQAM qui ont fait un projet Les marginaux, où ils voulaient explorer les relations amoureuses et sexuelles auprès de personnes atypiques, avec des corps, des différences, tout ça. Alors,
Et ça va-tu être rendu public ou...
Ça a été diffusé au Canal Savoir. je crois pas, faudrait que je m'informe avec les étudiants, mais il n'y avait pas de projet que le documentaire soit diffusé ailleurs, mais ça a été diffusé au Canal, faut savoir.
En tout cas, si jamais vous avez des discussions avec les étudiants en question et que vous jugez que vous vouliez le mettre peut-être en lien sur votre site à la QPPT, ou en tout cas, si jamais vous pensez qu'il peut être utile, je pense que ça peut être un autre outil de sensibilisation.
C'est intéressant parce qu'il y a trois personnes, c'est ça, sur le sujet. Là, on peut regarder de ce côté-là.
Ouais. On a Kathleen au bout du fil. Bonjour. Rebonjour, Kathleen.
Rebonjour.
Comment allez-vous?
Ah, ça va très bien.
Bon, on va parler d'adaptation résidentielle cette fois.
Oui.
Ceux qui l'ignorent, vous avez un nom de famille, Bibeau.
Oui.
Et je parlais tantôt du lavabo que j'ai inspecté dans mes sorties. Je n'ai pas vu aucun lavabo qui était dûment accessible pour la personne de petite taille, malgré que les salles de bain, elles, se voulaient accessibles avec le petit logo et tout et tout. Je présume que le privé est plus facile à adapter que le public. On n'est pas obligé d'attendre.
Oui, c'est plus simple parce que le privé est adapté à la personne elle-même. Parce que une adaptation, c'est à la personne elle-même, tandis que l'accessibilité, c'est ouvert à tout type de personnes et d'handicap. Fait que les lavabos, les comptoirs de cuisine sont abaissés à la hauteur que la personne a vraiment besoin pour bien fonctionner et que ce soit ergonomique. Autant dans la salle de bain que dans la cuisine.
Si la semaine dernière, on a dit qu'il pouvait y avoir des comptoirs un peu comme à la banque, il pouvait y avoir peut-être une tablette un peu plus basse, est-ce que vous avez chacun vos éviers?
Ça dépend de chaque personne. C'est propre à chaque personne. Si c'est un couple mixte et que, mettons, comme la salle de bain le permet, je mixe. En voulant dire
grand
une
petit,
personne
là.
De taille classique
ouais.
Et une personne
de taille classique, c'est beau ça. OK.
Puis, à ce moment-là, si la salle de bain permet, on va avoir un comptoir plus bas et un comptoir standard pour la personne de taille classique.
Mm-hmm.
Mais sinon, on essaie de faire des compromis entre les deux. Là. Ça peut être, des fois, c'est remplacé par un lavabo bédaine.
Qu'est-ce que c'est?
Des fois, mettons, comme dans la cuisine, ça peut être un tiroir renversé qui fait quand on tire, ça fait une marche aller à l'évier. Là.
Je connais les chandails bédaines, mais pas les lavabos bédaines, Kathleen.
Un lavabo bédaine, c'est un lavabo qui est encastré dans le comptoir, mais il y a une partie du lavabo qui est sortie du comptoir, qui dépasse... avec qu'on voit comme la céramique, la porcelaine du lavabo là, qui dépasse. Avec
la céramique à l'air.
Est plus proche, il est collé sur nous. Avec les poignées sont accessibles on peut avoir la figure dans le lavabo pour, mettons, brosser les dents, ces choses-là.
Nathalie, avez-vous ça chez vous?
Non, moi, je suis en appartement.
C'est ça, on a moins de contrôle.
Mais moi, j'ai un appartement qui est assez âgé, dans le sens que c'est les lavabos qui sont suspendus, là. Donc, c'est pas tellement haut. Moi, j'ai pas de vanité ou de comptoir. Donc, c'est un peu le principe de comme Kathleen explique du lavabo bedette, là, si on peut employer. Donc, j'ai facilement, il est peu profond ou il est pas large aussi, le lavabo. Donc, ce qui permet d'atteindre plus facilement les robinets.
Mm-hmm.
Parce que s'il était de grandeur standard, assez profond, large, avec le comptoir, pas le comptoir, mais l'armoire, moi, j'ai jamais accès à ce moment-là aux robinets et tout. Là.
Quand vous cherchez pour louer, c'est facile pour une personne en fauteuil roulant de dire « Est-ce qu'il est accessible, votre logement? » Pour une personne de petite taille, si elle dit « Est-ce qu'il est accessible? » Le propriétaire, il comprend pas. Quelles questions posez-vous?
Je dirais que, parce que moi, j'ai travaillé 15 ans dans ce domaine-là, je dirais que même pour une personne en fauteuil, c'est pas si simple que ça.
Mm-hmm.
Il faut visiter chaque logement parce que les propriétaires comprennent pas toujours c'est quoi un logement adapté ou accessible pour une personne, soit de petite taille ou en fauteuil roulant. c'est mieux. C'est sûr qu'on pose des questions, on essaie de les informer le mieux possible sur nos besoins, mais c'est toujours mieux d'aller visiter parce que c'est pas toujours ce qu'ils nous disent qu'on voit quand on visite le logement.
Ouais. Quels sont les autres types d'adaptations? Je pense à la cuisine. La cuisinière, bon, on se hisse plus haut, on met soit des marchepieds ou des choses comme ça pour pouvoir cuisiner.
La cuisinière...
Faut pas qu'elle soit profonde, par exemple.
On essaie d'avoir le plus possible une plaque chauffante qui est à notre hauteur, parce que les comptoirs, on essaie des faire abaisser à notre hauteur. Puis la plaque chauffante est à notre hauteur avec les boutons sur le côté pour réussir. Sinon, si on peut pas, on ajoute une cuisinière avec les boutons en avant parce que sinon, c'est très dangereux d'aller ouvrir les boutons plus loin. Après ça, on a les comptoirs abaissés et les armoires, on les fait abaisser aussi pour être capable d'au moins rejoindre la première tablette sans être obligé de grimper.
Si je peux rajouter aussi pour le four encastré. Le four encastré, c'est tout, avec la plaque chauffante, avec la porte qui s'ouvre sur le côté au lieu d'avoir la porte qui s'ouvre par en avant. Encore là, pour avoir accès plus facilement aux aliments dans le four.
Si jamais on... Parce que là, on parle surtout d'adaptation de domicile. Puis comme on dit, moi et Nathalie, on est en appartement. Des fois, on peut trouver des trucs plus simples, comme mettre la vaisselle de tous les jours...
Les armoires du bas.
Ou dans des étagères plus bas. Avoir des dessertes. Avoir une desserte. Là. Moi, j'ai pas beaucoup de comptoirs, alors je me suis acheté une desserte que j'ai coupée un petit peu. Je peux cuisiner là-dessus ou je cuisine carrément sur la table de la cuisine.
Comme moi, j'ai une cuisinière standard avec les boutons dans le fond, mais j'ai une pince. Donc, il y a des aides techniques aussi qui peuvent exister. Mais moi, c'est une pince que je prends pour tourner et fermer mes boutons pour pas, là, justement, parce que c'est chaud, pour pas me brûler. Il peut avoir aussi, quand la cuisine est assez grande, avoir un îlot. Donc, c'est d'adapter une partie de l'îlot ou l'îlot au complet.
Les électroménagers, c'est facile d'en trouver avec des boutons sur le devant plutôt que sur le panneau arrière?
Oui, il y en a plusieurs maintenant. C'est assez simple d'en trouver dans les magasins. On en voit régulièrement maintenant.
Bien, surtout que maintenant...
C'est toujours un peu plus cher.
Oui, mais surtout que nous, à l'époque, comme la laveuse et la sécheuse, il y a des années, trouver une laveuse sécheuse frontale, c'était très rare et très dispendieux. Et là, depuis quelques années, c'est la mode. Alors nous, on en profite grandement parce que nous, c'est incroyable comme ça nous simplifie la vie, là, surtout pour la laveuse. Là. Parce qu'imaginez-vous, là, à la maison, grimper sur une chaise, lever le couvert, aller chercher la petite paire de bas collée dans le fond.
Ouais. Scène d'un mauvais film.
Oui, exact.
C'est acrobatique.
Oui. Sinon, j'essaie de penser, bon, la salle de bain, je fais le tour vite, puis à part les comptoirs...
Douche.
Ah, la douche!
Douche.
Ah oui, c'est quoi le problème?
Une douche avec...
Téléphone
avec un poteau ajustable là, pour ajuster la hauteur de la douche selon la personne.
Mais pourquoi? Ça change quoi que l'eau tombe de plus haut ou plus bas?
Bien, une douche de téléphone, on veut la prendre dans notre main pour la passer partout. Et si qu'on est avec un conjoint qui est grand puis qu'il la laisse accrocher en haut...
Bien là, changer de conjoint, là. S'il n'y a pas cette sensibilité-là, là,
non, mais c'est ça. Donc, avec la pôle ajustable, c'est ça. Mais il peut avoir, pour les enfants, parce qu'on parle d'adaptation, là, nous, on est trois adultes de petite taille, mais nous, à l'association, on rencontre beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Quand arrive la période que l'enfant est propre, va à la toilette tout seul, peut se laver les dents tout seul et tout ça, ils peuvent faire adapter aussi la salle de bain pour l'enfant. Donc là, on va avoir besoin d'un banc de toilette pour l'enfant, pour atteindre le siège de toilette. On parlait, comme Kathleen disait tantôt, du lavabo avec le tiroir inversé dans la salle de bain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées pour les enfants aussi, pour l'autonomie.
Traîne du garde-robe aussi abaissé.
Oui, le pôle du garde-robe.
C'est vrai. Oui.
Des patères, des crochets.
Aussi.
Oui, les lumières. Oui.
Les interrupteurs.
Oui, OK. Oui.
On peut les abaisser ou il y a des rallonges aussi qui se vendent pour mettre après l'interrupteur pour que l'enfant ou la personne de petite taille peut être capable d'ouvrir et de fermer la lumière.
Des fois, les poignées de porte aussi, d'avoir des becs de canne au lieu de la poignée ronde.
Je pensais à la porte patio, souvent, j'imagine que ça dépend de la grandeur de chacun, mais chez nous, les poignées sont assez hautes. Est-ce que souvent, on est obligé de traîner son petit marchepied?
Pas pour les poignées de porte.
Non.
Quand
non,
on est adulte, non.
Non, c'est rare, ça.
Non.
Okay.
Non, ça, je n'ai pas vu de problème à ce niveau-là.
Ben, okay. Ça peut arriver, je pense.
Pour des fenêtres, par contre.
Oui, des fenêtres, ça arrive que des familles qui ont abaissé... Ben, quand on est propriétaire de la maison, on peut abaisser même la fenêtre pour avoir accès...
À regarder dehors.
Exactement. Des fois, bon, les poignées...
Regarder dehors, c'est surfait, ça.
Mais ça a l'air de rien, mais moi, c'était un facteur que quand j'ai cherché mon appartement... J'ai pris en considération la hauteur des fenêtres. Mm-hmm. Des fois, les fenêtres, j'ai déjà été chez des gens là, que ça arrivait à hauteur de ma tête. Je voyais pas tout dehors dans une chambre, là, pour dire. Là. Donc, ça peut
être... Oui, il y a des années de construction
Exactement.
Que les fenêtres étaient très hautes.
Donc, non seulement on voit pas dehors, mais à chaque fois qu'on veut ouvrir et fermer la fenêtre, comme vous dites, ça prend un marchepied pour le faire. Donc.
Est-ce que c'est beaucoup plus coûteux d'adapter ou, somme toute, on s'en tire quand même à bon compte?
Bien, les adaptations de logement, on peut faire affaire avec de domicile, je veux dire, avec le programme TAP et le programme d'adaptation de domicile avec le gouvernement, à moins qu'il y ait des coupures, qu'il soit dans les coupures prochainement, là. Le gouvernement déferait une grosse partie des coûts de l'adaptation de domicile. Il peut défrayer jusqu'à 16 000 $
une fois que l'ergo est passé.
Oui,
une fois que l'ergothérapeute est passé, par exemple.
Oui,
il faut être patient.
Ça.
Le,
oui, parce que
le pays de PAD, c'est patience.
Oui, c'est patience.
Oui. Kathleen Bibeau, Nathalie Labelle, merci beaucoup. Il reste du monde au bureau, là, ou c'est la QPPT est en force?
On est fermé le vendredi.
OK, excellent. On va causer adoption. Au retour de la pause, on va également s'intéresser à cette nouvelle coalition large emploi personnes handicapées. C'est un nouveau venu dans le milieu de la limitation fonctionnelle. C'est Kamal Salifou qui est à la mise en onde. Mon nom est Luc Fortin. Je reviens avec Karine Villeneuve dans 2 minutes.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Karine Villeneuve, Kamal Salifou, mon nom est Luc Fortin et on joint au bout de la ligne, Catherine Desrosiers. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'association Emmanuel. On me dit que vous êtes gentille. Lynn, qui a causé avec vous, m'a dit du bien là, de l'entretien que vous aviez eu avec elle. La mission d'Emmanuel pour mettre tous au parfum, l'amour qui sauve peut se résumer ainsi, c'est-à-dire favoriser l'adoption d'enfants ayant une incapacité physique, également psychique, intellectuelle, et soutenir les parents biologique à la naissance d'un enfant handicapé. J'ai envie de vous poser la question tout de suite, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, là, mais pourquoi soutenir des parents alors que j'ai l'impression que chaque segment du secteur de la limitation fonctionnelle a son association de parents?
Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie des choses qu'on leur offre d'emblée de se référer aux organismes qui ont chacun une spécialisation. Il faut comprendre que nous, c'est très large. Hein? Mm-hmm. Mais en fait, c'est les gens qui nous approchent, c'est des gens qui envisagent l'adoption pour leur enfant. Donc, c'est une naissance imprévue. L'enfant a un diagnostic souvent très grave et parmi les options qu'ils ont, se pose la possibilité de confier à l'adoption.
OK. Donc, vous aidez même les parents à faire ce choix-là.
Tout à fait. C'est là qu'on entre en et non pas, peut-être c'est pour ça, d'où votre question, en fait.
Mm-hmm.
Nous, c'est vraiment ça notre champ de travail à nous.
Wow, c'est
quand
fascinant.
Les gens ne peuvent s'imaginer un futur avec un enfant qui présente de lourdes incapacités souvent. Là.
Oui, c'est une question sans vouloir juger la décision individuelle. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'une société permettait l'avortement alors qu'il y avait des parents qui voulaient aider et avoir des enfants malgré la limite que peut représenter certaines réalités de cet enfant-là. Fin de l'éditorial. Est-ce que les parents qui se questionnent viennent alors en pleine grossesse ou c'est une fois l'enfant né? Parce que tu veux pas te poser une question pendant 2 ans, là.
Non, tout à fait. Tout se peut. C'est arrivé qu'on accompagne des gens durant la grossesse. Il y a parfois des diagnostics qui se font dès la grossesse, mais parfois c'est seulement qu'à la naissance ou en toute fin de grossesse là, que l'handicap est connu et appris par les parents. Donc, il y a plusieurs réponses, encore une fois.
Une petite question, est-ce que vous faites affaire avec seulement des enfants québécois ou...
De façon occasionnelle, il peut arriver qu'il y a des adoptions internationales pour lesquelles on peut avoir joué un petit rôle, mais notre mission, c'est vraiment de se concentrer sur les enfants québécois. Et on en a déjà quand même beaucoup, là. Donc, on se concentre au Québec essentiellement.
Ouais. Karine, qui est la directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille, sans vouloir faire du cas par cas, il y a quelqu'un de chez vous, Catherine, qui a appelé la QPPT cette semaine. Donc, il y a à la fois un service de référence qu'on peut donner aux parents, mais l'association Emmanuel va également faire des approches auprès d'autres organismes. C'est ce que je comprends.
Bien sûr, on réfère à nos parents qui ont adopté de contacter. En fait, on les encourage fortement à s'impliquer et à poser des questions aux organismes et aux associations qui ont leur champ de compétences. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on offre aux parents ce type de référence-là, là, comme ce que vous illustrez cette semaine, effectivement.
Ouais.
Tout à fait.
Oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants handicapés qui est adopté au Québec chaque année?
C'est une statistique qui serait difficile à obtenir. Je peux vous donner nos chiffres à nous. Mm-hmm. De façon générale, dans les, disons, 3 ou 4 dernières années au Québec, c'est fait environ entre 200 et 250 adoptions là, pour toute la province au complet. Là, j'exclus les adoptions internationales, c'est les adoptions québécoises. Nous, à Emmanuel, on a toujours de 20 à 25 demandes par année. Là. C'est pas mal constant depuis 10 ans. Donc, on recherche activement des familles pour 20 à 25 enfants tous les ans. Là. Ça vous donne une idée un peu là, de la proportion. Mais par handicap, des fois, c'est un handicap nommé comme la trisomie 21 ou quelque chose de connu. Mais parfois, c'est des enfants qui sont tout simplement issus d'un passé de négligence, de maltraitance. Et là, on ne sait pas trop comment l'enfant va se développer. Donc, c'est...
Avec tous les enfants que vous recevez, est-ce que l'issue est toujours heureuse, positive? Est-ce que tous les enfants réussissent à se faire adopter?
Il y en a pour qui c'est plus long. C'est sûr que j'ai pas encore là des statistiques. C'est difficile parce que parfois, un centre jeunesse peut nous faire une demande, mais entre-temps, ils peuvent trouver dans leur propre réseau. Ou ceux pour qui c'est le plus difficile à trouver, c'est les enfants qui sont plus âgés.
Oui.
Donc, plus âgés de, mettons, 6 ans à montant. Là, ça devient difficile parce que c'est des enfants qui ont des gros bagages. Ou encore, ça peut être plus long pour des enfants qui ont des handicaps très lourd. Là, je parle à la fois d'handicap intellectuel, physique qui ont des soins très complexes.
Catherine, permettez-moi une généralisation et vous la rebuterez du revers de la main. Je présume que les parents qui sont prêts à adopter un enfant avec une limitation fonctionnelle ont soit eux-mêmes une limitation ou quelqu'un de proche dans leur environnement ou ont une foi spirituelle.
Bien souvent, ce que je vois, ce que je constate, c'est que c'est des gens qui ont certainement eu une rencontre avec un enfant ou une personne qui présente un handicap ou une limitation importante. Et cette rencontre-là est venue réveiller chez eux quelque chose. Ça les a fait... ils se sont dit, oui, moi, je me sens bien avec cette personne-là, j'ai le goût de la connaître, j'ai le goût... C'est des coups de cœur, en fait, hein, puis qui fait... Mais ça devient tellement... ça l'ouvre tellement une porte grande, je dirais, que les gens se questionnent, est-ce que je serais prête à m'engager dans un choix de vie, finalement, comme l'adoption auprès de l'enfant. Donc, c'est un cheminement qui se fait sur plusieurs années, mm-hmm. généralement, là. Alors, certains sont animés d'une foi, effectivement. D'autres sont complètement athées, mais ont quand même... Le truc en commun, je pourrais dire, c'est vraiment ça, c'est de dire une espèce de coup de cœur naturel, une attirance qui va assez fortement pour que la personne se questionne. Et puis, pourquoi pas, tu sais, s'engager dans une adoption.
Catherine Desrosiers, qui est directrice générale de l'association Emmanuel. Catherine, j'arrive devant vous. J'évoque mon intérêt pour adopter. Je suis en couple, là. Il n'y a rien de atypique. Mais vous détectez que, consciemment ou inconsciemment, je le fais parce que je veux être considéré comme le bon gars. Le gars courageux, le père qui... Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand, disons, le motif est peut-être pas tourné vers l'enfant et c'est peut-être même inconscient, là?
Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est des trucs complexes, là, le désir d'enfant et tout. Mais faut comprendre que nous, on a un rôle qui est d'informer, de soutenir tout au long du processus là, pré-adoption. Mais l'adoption comme telle, l'évaluation psychosociale qui vient rendre possible l'adoption, ce sont les centres jeunesse qui la font. Alors, moi, si j'ai des petites lumières comme ça qui s'allument, c'est sûr que, comme je travaille en collaboration avec les centres jeunesse, il y a des choses que je vais leur demander de valider ou tout au long de l'entrevue d'évaluation qui dure quand même vraiment 10 à 15 heures. Tu sais, eux, ils ont le temps de creuser, là. Donc, ce sont des. Il faut faire confiance au travail qui est fait puis à leur expertise rendue là.
Est-ce que, à titre de parents qui seraient intéressés à adopter, est-ce qu'ils peuvent avoir des critères? Tel type d'handicap ou... Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, tout à fait. En fait, c'est justement ce qu'on fait en pré-adoption, c'est qu'on aide les gens, on les informe sur les différents types d'adoption. Et puis après, on les aide à se diriger vers le bon type de projet qui va aller vraiment avec leur personnalité, là. Donc, on part toujours des besoins des enfants, évidemment, quand on est dans les processus de jumelage, mais on essaye toujours de trouver la famille chez qui ça va le mieux, ça correspond le mieux avec la personnalité, là, des gens.
Puis au niveau des temps d'attente, est-ce qu'il y a une différence, justement, entre adopter un enfant avec une limitation fonctionnelle par rapport aux enfants?
Oui, j'imagine qu'il y a moins de demandes, donc ça va plus vite.
Ben, c'est certain que oui, il y a moins de demandes, ça, c'est certain. Ouais. La preuve, c'est qu'on existe. Sinon, les centres jeunesse n'auraient pas besoin nécessairement de notre travail de collaboration.
Sauf que c'est pas une bonne raison.
Pardon?
C'est pas une bonne raison d'adopter un enfant handicapé parce que je suis pressée.
Ah ben non.
Ouais.
C'est bien trop une décision sérieuse. Moi, honnêtement, ça, là, le désir qui est si fort puis ils veulent aller vite, ça a rarement été un problème parce que c'est tellement clairement annoncé ce qu'on fait comme travail. C'est tellement des affaires avec des grands besoins. Le rationnel n'a pas le choix d'embarquer solidement là, parce que c'est bien beau vouloir un enfant, mais quand on sait qu'il va avoir tout un paquet de défis, faut y penser. Là. Donc, les gens le font. C'est pas des choix par dépit, là. Vraiment pas. C'est des choix par des vrais choix.
Oui. Ouais. Ça peut prendre combien de temps, disons, les différentes étapes pour finalement recevoir Hector à la maison?
Eh bien, ça peut être relativement court, dans le sens de moins d'un an. Ça dépend de, là où en sont les gens dans leur processus. Là. Il y a des gens que je rencontre que ça fait déjà... 2 ou 3 ans qui sont en cheminement, qui ont déjà des procédures de fait avec leur centre jeunesse. Il y en a d'autres qui sont tout début de leur processus de réflexion. Donc, ça dépend vraiment, encore là, c'est du cas par cas, mais quelqu'un qui m'appellerait cet après-midi, qui a déjà un grand bout de chemin de fait, qui est déjà, qui a en plus une grande ouverture face aux handicaps, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va rester longtemps à sa tablette.
Donc, j'entends qu'il peut y avoir des candidats plus intéressants que d'autres et ils vont peut-être cheminer plus rapidement dans la file d'attente. Ils vont peut-être passer devant Karine.
Bien, c'est possible si ça dépend aussi de leur région où ils sont situés. C'est sûr que des gens qui vivent près des grands centres, c'est souvent un plus parce que nous, nos enfants sont ils ont des grands besoins. Ils sont bon, c'est le fun de rester près des hôpitaux, près des services, etc. Et bon, c'est sûr que des gens qui sont plus éloignés, ben on va attendre d'avoir un projet pour eux. Il y a tout l'aspect légal aussi, j'ai pas parlé vraiment de ça, mais on a beaucoup de situations qui passent dans un processus de banque mixte où là, on a des étapes légales à franchir. Donc, on ne peut pas aller n'importe où au Québec. Il y a un paquet de facteurs.
Parlez-moi vraiment, là, les éléments légaux. On ne peut pas aller n'importe où au Québec. Expliquez-moi.
Oui, bien, en fait, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec les termes de l'adoption, mais souvent, l'adoption, il y a les adoptions régulières. Donc, ça va assez. Là, on est dans un processus où il y a un consentement à l'adoption qui est signé. Mm-hmm. On peut procéder assez rapidement. Mais il y a aussi beaucoup d'adoptions qui passent au Québec par la banque mixte. Les gens qui
ça, c'est location l'adoption avec option d'achat, là.
Bien, c'est-à-dire que c'est un enfant à haut risque d'adoptabilité, mais dont les attributs parentaux passent dans un processus où le parent biologique s'est fait retirer la garde de son enfant à cause bon, de toutes sortes de raisons qui sont en lien avec notre loi. Donc, à ce moment-là, c'est une procédure qui est différente. Et souvent, les enfants ont des contacts avec les parents biologiques pour un certain nombre de mois. Alors, c'est sûr que dans un processus comme ça, si l'enfant vient de Montréal, on l'enverra pas à Chicoutimi ou qu'il y a des contacts.
Ça a bien de l'allure. Ouais, voilà. L'animateur a tout compris.
Bon, mais c'est bien. J'ai pas été trop nébuleuse.
Non. Catherine Desrosiers, merci beaucoup, beaucoup.
Ça me fait plaisir.
C'est vrai que vous êtes gentille.
Bon, mais tant mieux. Je suis contente de confirmer.
vous voyez environ combien de parents par année? Que ce soit juste pour aller chercher des informations, puis vous ne les revoyez plus après, là. Avez-vous une idée de...
Bien, c'est, disons, de 30 à 40 candidats, je dirais, ou personnes. Puis ça, il y en a qui posent effectivement que quelques petites questions, je ne les revois plus. Puis il y en a d'autres que ils sont prêts à aller de l'avant, et puis on les accompagne là-dedans.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Et ça me fait plaisir.
Catherine Desrosiers, qui est donc directrice à l'association Emmanuel. Petite pause musicale et nous, on va établir la communication avec Daphné. Madame est la porte-parole de cette nouvelle coalition large emploi personnes handicapées. Madame Savard, bonjour.
Bonjour.
Daphné, qui est porte-parole de la coalition Large Emploi Personnes Handicapées. Une coalition qui veut dénoncer, qui veut améliorer, qui veut... Quelle est la philosophie de cette coalition mise sur pied pour, disons, aborder le sujet de l'emploi?
Dans le fond, nous, la coalition, c'est une mobilisation spontanée de personnes handicapées. Puis nous, on a constaté l'échec relatif des actions au regard aussi de l'intégration par le ministère de son désengagement par les GED de la mesure CIT, entre autres. Puis nous, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est avoir une chance égale pour l'accès du marché de l'emploi, parce qu'on sait que vivant avec une incapacité, c'est pas toujours facile de pouvoir faire valoir ses compétences et non son handicap au premier plan à l'employeur. Ouais. Fait que quand on va dans une entrevue puis qu'on voit qu'il y a 50 autres personnes qui ont postulé, dont 8 devant toi, qui veulent le même poste que toi, d'avoir aucune mesure pour pouvoir dire à l'employeur, le rassurer, pour lui dire, ben écoute, le gouvernement t'appuie là-dedans, tu peux m'engager, il n'y a aucun problème, de dire que peut-être qu'il va avoir certains ajustements à faire. Dans le fond, la mesure CIT, ça permettait autrefois de nous mettre sur le même pied d'égalité que les autres candidats pour le poste.
On en est où, justement, avec ces contrats d'intégration au travail? On a peut-être eu conscience là, de Françoise David, la députée de Gouin, qui a tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Mais concrètement, qu'en est-il des CIT et des coupures appréhendées?
Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce n'est pas nécessairement une coupure. Présentement, ce qu'on a, c'est un gel. Donc, un moratoire a été prononcé pour la Montérégie depuis bien longtemps.
Et plusieurs autres régions, dont Montréal, en ce moment aussi, c'est gelé.
Oui. Continuez de
Montréal. Ouais. Montréal aussi, c'est gelé. Il n'y en a plus de nouveau CIT. C'est récent. Je pense que c'est depuis juin que ça a été gelé pour la région métropolitaine de Montréal. Mais c'est ça. Donc, il n'y a plus de nouveaux participants qui peuvent être admis. Donc, l'État continue à former ce que Mme David, dans le fond, je reprends ses mots, là. L'État forme des jeunes, donc des jeunes avec une déficience. On finit, on a nos diplômes comme tout le monde. Et finalement, on arrive sur le marché du travail, puis on se casse le nez si on veut, parce qu'il n'y a plus de subventions pour nous permettre d'y accéder de façon équitable.
Est-ce qu'on a une idée, ou on laisse ça à d'autres, Daphné, est-ce qu'on a une idée peut-être du manque à gagner qu'on voudrait voir injecté dans les tiroirs de ce ministère de l'Emploi-là, ou nous, comme coalition, on est surtout là pour faire du bruit, faire connaître une réalité qui est celle que vous avez décrite et on laisse à d'autres la comptabilité?
La comptabilité, bien, c'est sûr que nous, dans le fond, ce qu'on dénonce, j'ai pas vraiment de chiffres pour vous aujourd'hui exacts, mais nous, ce qu'on veut, c'est certain, c'est que le gel soit levé et que d'autres nouveaux participants puissent bénéficier de la mesure. Et par ailleurs aussi, comme dans tous les programmes, ce qu'on essaierait de voir, c'est justement quelle portion de ce financement-là va aux gens réellement.
Ce qui est intéressant également, c'est, en tout cas, à première vue, et j'aimerais bien poser cette question-là à Julie White, qu'on tente de joindre, qui est l'attachée de presse du ministre Blais. Mais c'est moins coûteux, un CIT, que l'aide sociale, il me semble.
Définitivement.
Pour l'État, là, il me semble que c'est un mauvais calcul.
Définitivement. Je vois même pas la logique de mon côté non plus. Parce que non seulement les personnes handicapées, on a quelque chose à apporter au marché du travail. Là, on n'est pas juste un handicap sur deux pattes, on est avant tout une personne. Puis je trouve que c'est un potentiel, c'est un capital humain qu'on doit utiliser. Parce qu'une personne sur l'aide sociale là, qui a un handicap, ça coûte cher de un, puis de deux, cette personne-là qui va sortir du marché du travail pour aller sur l'aide sociale ou peu importe, ça se peut qu'il y ait des coûts attachés à ça aussi, des blessures psychologiques, si on veut, à ça qui s'ajoutent.
Oui, puis si on prend juste l'aspect strictement chiffre, monétaire, là, on laisse l'aspect humain de côté parce que, bon, souvent notre gouvernement comprend le signe de piastre. La personne qui travaille repaie des taxes, va être impliquée dans son économie, hein, on va sortir plus, donc on devient un contribuable payant pour les coffres de l'État, c'est particulier. Quels sont qui fait partie de cette coalition? Parce que c'est quand même nouveau. On a vu, pour ceux qui suivent pas ça de près, Daphné, la première, je dirais, action de cette coalition large est justement cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Parlez-moi un peu des débuts de ce mouvement-là.
Dans le fond, c'est ça. On a tenu une réunion pour faire un comité de pilotage. Présentement, sur le comité de pilotage, on est 8, mais c'est un comité qui est ouvert. Nous, dans le fond, toutes les gens qui sont intéressés, qui sont touchés de près ou de loin par la cause des personnes handicapées et qui veulent s'impliquer, on les accueille à bras ouverts. C'est sûr qu'on n'a pas un énorme budget pour la publicité, etc. Donc, c'est pour ça que les gens n'ont peut-être pas entendu parler plus que ça de la formation d'un comité de pilotage. On n'a pas les moyens de mettre sur pied un site Internet. Par contre, on a fait une page Facebook, donc c'est facilement accessible. Vous pouvez communiquer avec nous via la page Facebook pour pouvoir vous joindre, dans le fond, au comité de pilotage.
Et qu'est-ce qu'on, jusqu'à maintenant, que ce soit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une mission, une philosophie, des objectifs clairement annoncés?
Clairement annoncés, bien nous, c'est clair que ce qu'on demande, c'est pas moins que de pouvoir avoir accès justement également au marché du travail et que les gels soient levés, qu'on puisse injecter plus de mesures et mieux l'administrer, cette mesure-cité, pour toucher plus de gens possible qui en ont besoin.
Est-ce que la coalition va exister au-delà de cette situation qui prévaut actuellement du gel des contrats d'intégration au travail?
Fort probablement, parce que j'imagine que, bon, cette mesure-là, dans le gouvernement, ils peuvent changer ce qu'ils veulent un peu n'importe quand, n'importe comment. Fait que c'est sûr que si on doit se constituer pour cette mesure-là, il n'y a rien d'éternel. Fait que fort probablement qu'on aura à réintervenir dans le futur si jamais on réussit à atteindre nos objectifs et puis que finalement la pérennité est menacée.
Ouais, ouais. Daphné Savard, donc, à qui l'on pose quelques questions pour mieux connaître la Coalition Large Emploi Personnes Handicapées et surtout cette situation auquel on est convié d'ajouter notre voix et notre nom sur le site de l'Assemblée nationale. Toutes les coordonnées seront sur la page web d'Accès Libre, évidemment, autant pour en savoir davantage sur la CLEF que pour apposer sa signature sur la pétition. Daphné, j'ai également ouï dire qu'au-delà du CIT, vous souhaitiez rien de moins qu'une loi cadre. Ça peut être long, là.
On aimerait ça, mais pour l'instant, notre mesure immédiate, ce serait que les gels soient levés pour pouvoir remettre la mesure CIT sur pied.
Et qu'est-ce qui serait, disons, acceptable? Est-ce qu'on veut juste le dégel pour l'année en cours? Jusqu'où on est prêt à aller? Puis en même temps, qu'est-ce qu'on serait prêt à accepter en disant au gouvernement, ben on sent qu'il y a vraiment un effort de fait?
Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gel soit levé, qu'il y ait plus d'argent d'injecté qui va directement aux participants dans la mesure CIT. Donc, directement aux participants, ce que j'entends, c'est que ça va directement dans chaque contrat d'intégration au travail, que ce soit un nouveau ou un présent, pour assurer, dans le fond, que le plus de gens possible ait accès à cette mesure et que ce soit quelque chose qui ne sera pas touché et qui reste réaliste selon les besoins qui sont ressentis.
Vous faites deux fois que vous faites allusion au fait qu'on voudrait que le 100% soit injecté dans le CIT en question. Je comprends que vous présumez qu'il y a une partie des sommes qui sont investies autrement?
Ça se pourrait, mais je m'embarque pas là-dedans. J'ai pas les chiffres devant moi, sauf que là, on aimerait ça. On est juste curieux. On aimerait ça savoir combien du montant de CIT va exactement aux participants.
C'est quoi? C'est les employeurs qui en gardent... C'est ça la crainte, que les employeurs se subventionnent ou que...
C'est la crainte que le montant qui est injecté dans la mesure CIT, bon, on sait qu'une mesure, ça ne s'administre pas tout seul.
Ouais.
On sait qu'il y a des gens qui sont responsables d'administrer la mesure CIT. Donc, on voudrait savoir combien va à l'administration et combien va pour les contrats d'intégration.
De la mesure. Surtout, combien coûte l'administration d'une mesure qui est gelée? En théorie, c'est supposé coûter moins cher. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, là. Une fois qu'on sait que, bon, Karine reçoit tant, Luc reçoit tant, Daphné reçoit tant, ben après ça, il n'y a plus rien à dire. C'est comme ça pour l'année ou pour le 6 mois. OK. Les gens, communiquent avec vous, disent qu'ils voudraient donner du temps, voudraient s'impliquer. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous avez des réunions régulièrement?
Oui, absolument.
Puis ça ressemble à quoi régulièrement? Juste qu'on comprenne le genre d'implication, là.
Ça dépend sur quoi on va intervenir. C'est-à-dire qu'on reste tout en contact, chaque participant. Donc, on envoie une lettre un peu à tout le monde avec qu'est-ce qui va être discuté dans la réunion. Nécessaire de se réunir. C'est sûr qu'on ne va pas se réunir pour rien. Mais s'il y a quelque chose à discuter, bon, ces temps-ci, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, on se réunit aussi. Il y a des nouveaux membres qui veulent se joindre à la coalition, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on pourra faire une réunion pour accueillir nos nouveaux membres puis les mettre un peu au parfum de ce qui se passe.
OK. Et je précise que non seulement Françoise David a fait état de cette situation-là, mais elle a même accepté de marrainer la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Daphné Savard.
Ça m'a fait plaisir.
Daphné, qui est porte-parole de la coalition Large Emploi Personnes Handicapées, et je le souligne encore, là, tout ça est sur la page d'Accès Libre au Temps pour entrer en contact avec eux via Twitter ou la page Facebook et le lien pour ajouter votre nom à la pétition. On me dit que jusqu'à maintenant, on tournerait autour de 1000 noms pour cette pétition-là. Je n'ai pas le libellé complet de la pétition, mais on peut comprendre avec les dernières minutes, là, un peu de quoi il est question. Karine,
oui.
On accueille ça quand même favorablement. On aime ça, voir les gens qui individuellement disent « Hey, on en a assez, puis c'est bien que les organismes nous représentent, mais nous aussi, individuellement, on veut se faire entendre. »
Bien, c'est sûr, mais faut aussi voir avec les organismes qui sont déjà en place, là, qui font beaucoup de travail depuis plusieurs années. C'est sûr que notre organisme, nous, est membre de la COFUN, qui d'ailleurs se penche prochainement là, encore là, sur ce dossier-là, mm-hmm. qui est vraiment, vraiment important, l'emploi.
Il semble-t-il que la COFUN va se positionner là-dessus fin du mois.
Oui.
Karine, on se parle la semaine prochaine. Merci
oui.
beaucoup, Kamal. Bonne semaine, tout le monde. Prenez soin de vous, puis soyez fiers de qui vous êtes.